Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de création. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi c'est Louise, je suis autrice, coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club il y a quelques années. Dans ce podcast, j'interviewe des plumes qui ont décidé de s'emparer des mots pour dire, révéler la vie, l'humain, la créativité. Et parfois tout simplement juste pour aider et inspirer. Pour cette nouvelle saison, il y a une nouveauté. Tu peux maintenant faire partie de la communauté du podcast sur Tipeee. Mais c'est quoi cette plateforme? Eh bien, c'est une plateforme qui sert à soutenir le podcast, ainsi que d'autres créateurs. Et ce contenu que je crée avec le cœur, il pourra ainsi continuer à vivre sa vie durant plusieurs saisons. Tu peux ainsi l'aider à se développer en faisant un don, un tip, après l'épisode que tu as écouté. Et en échange de cela, tu as accès à des bonus ou à d'autres contenus inédits. Alors, après cette écoute, rendez-vous sur Tipeee. Le lien se trouve dans le descriptif de chaque épisode et sur mon Instagram. Ah, voilà, on respire, c'est parti. On va plonger dans de nouveaux échanges vibrants, passionnés. Parce que oui, les mots délivrent. Il suffit juste un jour d'oser exprimer. Aujourd'hui, je vous emmène dans un nouvel épisode qui prend une direction encore un petit peu inédite pour cette troisième saison, à savoir que je vais vous présenter une personne, Christelle O'Connor, qui est psychologue de formation et qui aujourd'hui propose des accompagnements thérapeutiques qu'on va dire alternatifs, différents. Christelle est essentiellement spécialisée en constellation familiale, mais pas que. Je serais vraiment très très contente que vous puissiez me faire des retours par rapport à ce qu'elle va nous apporter dans cette discussion. Voilà, en écriture, on rencontre parfois, souvent, à chaque fois, des blocages, des choses qui font partie de nous, qui sont à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous, qui nous empêche d'écrire, qui nous empêche d'oser publier, qui nous amène dans des réflexions et des émotions qui parfois sont bouleversantes, qui nous dépassent, qui débordent quand on est dans un processus d'écriture pour soi, d'écriture thérapeutique, mais pas que. Même dans l'écriture d'un roman qui, a priori, pourrait sembler à 100% fictif, fictionnel, l'écrivaine rencontre des blocages. Et aujourd'hui, je vais vous amener dans une discussion avec Christelle, parce que c'est vraiment une personne merveilleuse qui va pouvoir éclairer sur le fait que au niveau familial, en tout cas, parfois pas même au niveau de la famille nucléaire, mais même dans des choses que l'on porte de nos générations précédentes, il y a des blocages qu'on peut faire sauter, il y a des pas qu'on peut faire en avant pour oser être soi à travers l'écriture ou une démarche créative et artistique. Je n'en dis pas plus parce que c'est Christelle qui va nous révéler la suite. Belle écoute et franchement, faites-moi un feedback parce que c'est vraiment intéressant d'avoir votre retour sur ces blocages que l'on peut rencontrer ou sur ces personnes et ces ressources autres qu'une coach littéraire que l'on peut appeler pour avancer dans son pouvoir d'expression. Voilà, je vous laisse avec Christelle et mes questions hyper, hyper curieuses comme toujours. Coucou Christelle.
Coucou Héloïse.
Alors, bienvenue dans Les mots qui délivrent.
Merci.
Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. J'expliquais dans des messages précédents par rapport à mon podcast que pour la saison 3, j'aimerais explorer aussi avec des praticiens et des praticiennes en qui j'ai confiance, que je connais, une manière d'aborder la créativité autre qu'à travers un coach, c'est-à-dire qui je peux aller voir quand j'ai des blocages, quand j'ai besoin d'inspiration, ou quand j'ai besoin d'aller dénouer ou explorer des choses pour mon projet. Évidemment, je pense à toi parce que toi, tu as une pratique que j'ai découverte il y a un an et qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidée. Est-ce que tu peux présenter cette pratique?
Oui, bien sûr. Donc, moi, j'utilise principalement les constellations familiales dans ma pratique et j'ai trouvé d'abord pour moi que c'était un outil vraiment incroyable parce qu'il permet de voir des choses qui ne sont pas visibles avec le conscient. Et donc qui permettent vraiment d'aller débloquer des nœuds familiaux mm-hmm. et des héritages que l'on a et qui pour moi peuvent vraiment bloquer à 80% dans notre vie. Donc en fait, les constellations familiales, c'est très très vaste. Je pense qu'il y a autant de pratiques que de constellateurs, parce que moi j'utilise aussi de la danse, de l'hypnose, j'utilise aussi la maîtrise des quatre éléments dans mes constellations.
Donc Christelle, admettons, je viens chez toi parce que j'ai un projet d'écriture, je sens qu'il y a des blocages, je les identifie ou pas vraiment. En tout cas, je sens que c'est vers toi que je dois aller. Je viens en rendez-vous chez toi. Comment ça se passe cette séance en constellation familiale?
Ouais, du coup, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment éclaircir la demande, voir là où ça bloque. Et ce qui est toujours très intéressant, c'est d'aller voir dans notre système familial les mêmes blessures que l'on a vues quand on était petit, soit chez la mère, soit chez le père. Bon, on va pas chercher beaucoup plus loin. En général, ça tourne pas mal autour des parents. Et donc, on va vraiment respecter les lois de la systémique et des constellations qui sont de 1. Rééquilibrer le système. Donc, ne pas porter des choses qui ne nous appartiennent pas. Et dès lors qu'on arrête de porter des schémas qui ne nous appartiennent pas, donc par exemple, ma mère a toujours eu des hommes où c'était compliqué, elle a eu des relations de couple violentes, et moi, dans ma vie, je reproduis cette violence dans mon couple. Donc je sais qu'il y a une imbrication énergétique avec l'histoire de ma mère. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment rendre ce qui ne m'appartient pas. Et en fait, le fait de faire ça va permettre à la personne déjà de voir, et donc ça va être assez puissant déjà rien que ça de voir. De pouvoir déposer les choses et de pouvoir rééquilibrer le système. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Une deuxième, c'est aussi la place dans la famille et de voir, parce que parfois, il y a du bordel vraiment familial, et remettre de la place et de l'ordre, ça va vraiment permettre de remettre de la place et de l'ordre à l'intérieur aussi. Parce que donc parfois, on a les parents qui ne sont pas au bon endroit, on a un aîné qui se comporte comme un cadet, on a des enfants mort-nés qui n'ont pas été dits, et donc il y a vraiment un micmac et beaucoup de nœuds. Et donc rien que remettre la place et redire l'ordre des choses va permettre à la personne elle-même d'avoir plus d'ordre à l'intérieur. Une autre façon que j'ai de travailler, c'est vraiment d'aller voir tous les personnages intérieurs de la personne. Et donc par exemple, comment on a introjecté notre maman intérieure. Et donc c'est vraiment la partie qui s'occupe de nous, qui prend soin de nous, qui est à notre écoute. Et tiens, quand j'étais enfant, est-ce que j'ai eu cette maman à l'extérieur qui m'a permis de créer, moi, ma maman intérieure? Donc, par exemple, voilà.
Oui. Mais écoute, c'est intéressant parce que je pense justement à un exemple. Non, ça fait écho en moi parce que je suis toujours en toute transparence dans mes podcasts et j'ai eu recours à toi pour deux constelles, ou deux ou trois peut-être. Je me souviens que la première fois que je suis venue te voir, c'est ça qu'on a fait, et tu m'avais fait prendre conscience qu'il y avait une énergie forte masculine à l'intérieur de moi qui était en mode guerrière, faire des choses, et tu m'avais demandé comment on peut faire pour l'atténuer un petit peu, et j'ai redécouvert mon féminin dans toute sa créativité, sa flamboyance, sa flamme, et en sortant là, j'ai senti, je me connectais encore plus à ma créativité en disant à mon petit guerrier intérieur masculin, coucou panier, tu te calmes un petit peu, je vais aller plutôt et rééquilibrer tout ça. Et je sentais vraiment que tout était à sa place, parce que tu parlais de remettre en ordre intérieur, je me souviens, j'avais senti que tout était à sa place, et je me sentais encore mieux aussi dans cette capacité à pouvoir rester ouverte à la créativité grâce à ça. J'entends aussi qu'il y a rééquilibré des choses par rapport à la famille. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui bloquent ou qui peuvent bloquer dans un processus d'écriture? Ou moi, je peux te dire que voilà, on écrit parfois sur sa famille, ou on écrit un récit de vie. Et parfois, on écrit aussi des choses complètement fictives. Mais est-ce que toi, tu vois le lien ou l'intérêt que ta pratique peut apporter?
Oui, je pense que ça peut donner un autre regard sur le système familial, complètement un autre regard, parce que là, la société nous a un peu montré que okay, la famille, ça peut être des problèmes, des conflits, et on est un peu dans une relation au premier degré, que les constellations, ça nous permet de prendre beaucoup de hauteur et de voir tout ce qu'il y a derrière finalement, et qu'on a des héritages familiaux, et qu'au final, les parents qui se sont comportés d'une certaine façon, c'est parce qu'eux aussi portent des générations. On dit qu'en constellation, on travaille avec 7 générations au-dessus du père et au-dessus de la mère. Je pense qu'il y en a plus, mais c'est un chiffre aussi qui est assez symbolique. Et donc, c'est vraiment aussi prendre du recul et sortir de notre rôle de victime où on a souvent tendance à s'enfermer. Et qu'en fait, oui, ça permet donc de prendre ce recul, de se déculpabiliser, de plus être dans des colères peut-être, d'avoir beaucoup plus d'acceptation. Et aussi, ce qui est super intéressant, c'est que moi, souvent en séance, les personnes viennent, c'est le bordel, ma famille, c'est le chaos, blablabla. Et ce que j'adore aussi, c'est d'aller chercher des forces, parce qu'on oublie que notre système familial a vraiment beaucoup, beaucoup de forces. Et ça, rien qu'une séance, par exemple, aller reconnecter des forces familiales, ça peut être hyper puissant, parce que la personne, ça fait 15 ans qu'elle est dans un truc où ma famille est destructrice, nanana, je suis une victime. Et en fait, ah bah non, en fait, il y a aussi des forces, je peux me reconnecter à mes racines et vraiment aller rechercher une puissance comme ça. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc oui, je pense que ça donne une autre approche de la hauteur.
C'est très intéressant ce que tu amènes. Et c'est vrai que je souris parce que les forces et les racines et l'ancrage et cette puissance, je vous conseille vraiment une fois tester, parce que c'est vrai qu'on peut sortir avec ce sentiment d'être prêt à tout démolir, à tout casser, à y aller à fond. Et il faut vraiment être dans l'instant et le ressentir grâce à ce que tu proposes. J'aime beaucoup cette idée aussi d'aller pouvoir aller chercher dans les forces, parce que je me dis peut-être que des plumes qui écoutent pour se dire bah, ça va, j'en ai pas besoin, c'est pas le bordel chez moi, dans ma famille, etc. Mais j'aime bien le fait que tu puisses remettre tout ça dans cette hauteur, cette globalité. Il y a aussi moyen d'aller vraiment chercher des forces, des clartés. Moi je me souviens effectivement qu'il y a un moment donné où c'était venu d'une manière tellement inopinée dans une séance où j'ai senti une force. Et moi, je l'avais identifiée comme féminine. Je ne sais pas d'où elle venait, mais dans ces héritages de cette génération au-dessus de moi, je me souviens que j'ai senti, dans quelque chose que je n'attendais vraiment pas, une sorte de d'énergie. Vas-y, cocotte, continue, tu es sur la bonne route, quoi. Et tu sors de là et tu es galvanisée. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée pour la suite de ma démarche par rapport à la finalisation de mon livre. Oser le porter dans les mains d'un éditeur, parce que ça veut dire, la prochaine étape, c'est oser le mettre aux yeux du monde. Et je vais t'amener dans cette question-là, aux yeux du monde, ça signifie aussi aux yeux de ma famille, de mes parents. Je reçois beaucoup en coaching ces blocages-là avec des personnes que j'accompagne. C'est ok, là j'écris parce que je dois écrire, je le fais pour moi. Je suis même ok que des gens qui ne me connaissent absolument pas le lisent, le découvrent, même dans des tabous, dans des choses complètement transparentes. Et je reçois tellement souvent que, ouais mais si ma mère le lit, ça n'ira pas. Ou si machin, ou bazar, etc. Est-ce que tu trouves que c'est justifié? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui peut survenir, c'est naturel? Parce que moi, je le reçois très, très souvent en coaching.
Oui, je pense que c'est tout à fait naturel. Puis c'est aussi de se dire, ben, tiens, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que je ne vais pas remettre du chaos? Alors que moi, finalement, je recherche de l'ordre. Et il y a une citation qui dit voir l'ordre derrière le chaos apparent. Et donc, je pense qu'en effet, ça peut parfois créer plus de chaos, mais qu'il y a un ordre caché derrière. Et ça, c'est un peu aussi se dire, tiens, je reprends un certain équilibre et je fais confiance aux autres de pouvoir recevoir l'information comme ça parle pour eux. Et c'est aussi de sortir dans cette espèce d'ego qui a l'impression de croire qu'il peut faire du mal à quelqu'un. Et de se dire, ben, en fait, chacun est responsable de la manière dont il perçoit les choses. Et je peux aussi revenir dans cette confiance et rendre cette confiance. Tu parlais de la mère à ma mère, de pouvoir accepter ou pas. Mais en tout cas, moi, je sens que ça m'aura libérée et ça, c'est le plus important. Donc ça, oui, donc beaucoup travailler sur un sentiment de culpabilité. Mais pour moi, la culpabilité est vraiment liée à un ego trop important, c'est-à-dire le grand moi qui suis capable de faire de la peine au petit toi. Et donc c'est vraiment revenir encore une fois dans cet équilibre, chacun est responsable de comment il perçoit les choses.
J'entends cette idée de remettre de l'équilibre et rendre, comme tu dis tellement bien, rendre les choses une responsabilité à chacun aussi. C'est vraiment passionnant. Est-ce que tu as l'impression parfois que les personnes sortent d'une séance avec toi, tu les vois transformer, tu sens que, admettons, un projet créatif, un besoin d'exprimer en tout cas certaines choses aux yeux d'un public, est-ce que tu les sens transformer, toi, tu reçois quelque chose à la fin d'une session?
Oui, après transformer, j'ai pas non plus envie de partir dans le truc, c'est complètement magique et ouais. Après une séance ta vie va changer. J'en suis pas là, c'est plus les couches d'un oignon. On va voir une chose. Après, une séance peut être ultra puissante. Et je me rappelle des trucs où je sortais de séance en me disant, mais c'était tout petit, en fait c'était nul. Et puis 3 mois après, je me dis, waouh, en fait ça a tellement travaillé, ça a tellement débloqué de choses. Et des fois, c'est vrai qu'on le voit pas tout de suite. Mais on le voit plutôt par après. Voilà, après moi, je pense pas qu'une séance, ça puisse vraiment... Ça peut aider, ça peut débloquer des choses, ça peut... Oui, mais je pense que c'est plus un travail un peu sur le long terme et d'aller vraiment enlever une couche et puis une couche. Et puis on se rend compte aussi que surtout avec les traumas, il y a des mémoires comme ça qui restent. Qui reste et qui après 15 ans on revient en thérapie et on revoit que c'est encore là. Et ça c'est aussi pour moi se mettre dans une humilité face à la vie, une sorte d'acceptation que voilà, il y a des choses qui seront peut-être toujours là, mais c'est notre manière de les percevoir qui va être différente.
C'est passionnant franchement. Ce à quoi je pense aussi, c'est de me dire, tiens, j'aime bien la subtilité avec laquelle tu amènes le fait que c'est pas magique, parce que évidemment tu viens de nommer le mot, on est dans un accompagnement énergétique et on pourrait tomber dans l'écueil de oui, une séance et on sort comme une petite licorne qui brille et tout est magique, etc. Donc on voit aussi que c'est quelque chose qui prend du temps. J'aime bien entendre ça parce que dans l'écriture c'est pareil, l'écriture prend du temps, l'écriture sur soi, l'écriture thérapeutique, mais l'écriture d'un récit de vie à transmettre à d'autres, ou l'écriture roman. Et c'est dans ce temps que la tectonique des plaques et les répliques sont en train de se mettre. Je pense à ça justement. J'accompagne beaucoup de personnes qui viennent aussi pour des récits de vie. C'est-à-dire qu'elles assument clairement, j'ai vécu ça, j'ai envie de le raconter tel quel, avec toutes les imbrications. Mais j'ai aussi des personnes qui écrivent des romans fictifs. Tu penses que quelqu'un qui écrit un roman et qui a priori dirait « ouais non, c'est des personnages, je les ai inventés, etc. » Tu penses quand même qu'il y a des choses familiales, personnelles qui peuvent bloquer un projet a priori fictif?
Oui, après je suis pas trop dans le monde de l'écriture, du coup je ne sais pas est-ce qu'il y a vraiment des gens qui écrivent des trucs complètement fictifs, mais je pense que le fictif n'existe pas et qu'on part quand même d'une expérience et qu'on part quand même de son centre et d'une expérience vécue ou observée, mais observée du coup toujours encore une fois de l'intérieur. Donc oui, bien sûr, je pense que en fait je pense qu'on ne travaille qu'avec 5% de manière consciente, tout le reste, 95%, ce sont des processus inconscients, des héritages familiaux, et on en a absolument, enfin on n'en a pas du tout conscience en fait, et du coup on croit qu'on avance, on croit qu'on va là, mais en fait pas du tout, on est complètement à côté de la plaque, et c'est ce que j'aime avec les constels, c'est que ça ne ment pas, parce qu'on travaille avec le corps, et tu le disais tout à l'heure, en fait on a une citation en constel, c'est « laisse tomber l'histoire, qu'est-ce que tu ressens ?» Vraiment, c'est de travailler toujours avec le corps, avec le ressenti. Et donc, on se raconte tout le temps des histoires. Et moi aussi, en constel, je me dis, oui, mais maintenant, ça va, ma maman intérieure, je m'y sens vraiment très, très connectée. Et puis, on fait une constel, et puis je vois qu'en fait, à nouveau, elle est complètement à côté de la plaque. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça ne ment pas. On ne peut pas se raconter des histoires, on ne peut pas être à côté de la plaque quand on fait une constellation. Oui.
Ça, c'est vrai. Je le ressens, je l'ai vécu grâce à toi. Parfois, tu as même l'impression qu'il y a une sorte de petite bombe, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a quelque chose qui te pète à la tronche et qui en fait est très sain. Hein. Je ne veux pas faire peur à personne qui nous écoute qui est super sain, mais c'est vrai que ça ne ment pas, je ne vois pas. Pour avoir vraiment vécu ces instants, je ne vois pas comment tu peux mettre en doute qu'il y ait un truc fallacieux dans ce moment. Quoi. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, tu le nommes bien, tu pars du ressenti quoi, et de lâcher, déposer des choses derrière toi. Qu'est-ce que tu peux identifier? Est-ce que tu es OK de révéler un petit peu des types de demandes, voilà, sans rentrer évidemment dans le secret confidentiel, on respecte évidemment la confidentialité de chacun, mais est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui viennent par rapport à des personnes qui sont dans une démarche, en tout cas, d'expression d'elles-mêmes, ou pas que écrire un livre, mais des choses à dire, quoi, des choses qu'il faut...
Quelque chose de récurrent, c'est le fait de prendre sa place. Vraiment d'être à sa place, dans le centre, dans le bassin, dans le corps. Donc ça, c'est une demande récurrente, mais qui est en général déguisée sous d'autres choses. Enfin, je n'ai pas comme ça en tête. Ouais, et après, ça en revient toujours, au final. Le même nœud, c'est vraiment d'accepter tous nos petits personnages, d'accepter le juge intérieur, de donner de l'amour à cette partie qui détruit. Pour moi, ça en revient toujours à ça, en fait, c'est d'accepter les schémas qu'on a et d'apprendre à se voir tel que l'on est pour pouvoir s'aimer plus, surtout dans nos ombres. C'est un peu bateau, mais c'est quand même très vrai.
Et justement, j'étais en train de me dire, c'est pas du tout bateau, parce que dans l'écriture, en tout cas, quand je donne des conseils aux personnes qui écrivent, même dans le fictif, je dis, mais il faut pas que ton personnage il soit trop beau, trop bright, l'homme parfait, ou dans l'écriture intime, de choses qu'on veut partager à un public, ou même pour soi, pour une réparation familiale. Je dis, mais c'est vraiment les mêmes conseils. C'est assez marrant, parce qu'on n'est absolument pas formés aux mêmes choses, on n'est pas dans les mêmes disciplines, mais... je retrouve un point commun qui est, mais justement, embrasse ces zones d'ombre. Et tu parlais de bien se connaître, de se révéler à soi. Moi, je suis convaincue que c'est comme ça qu'on écrit mieux encore. Mm-hmm. Mieux tu te connais, déjà plus tu prends d'assurance dans le message que tu vas envoyer, dans la manière d'écrire, l'amour pour soi. Mm-hmm. Ben, ça va venir aussi nourrir l'amour de soi, écrivain, auteur, et d'assumer ça. Et les petits juges intérieurs dont tu parles, ben, c'est les mêmes en écriture. Tu vas poser quelque chose, tu vas dire, en fait, non, c'est nul, ça va intéresser personne. Mm-hmm. On est dans des choses qui sont... je ne sais pas si c'est maladroit ou pas la manière de l'exprimer, mais on touche à une matière qui est finalement la même, quoi. C'est ça qui est très intéressant. Et je me demandais, tiens, trouver sa place. Tu penses que l'écriture, ça c'est vraiment une question que je te pose, parce que je pense que tu es familière aussi avec des pratiques d'écriture parfois. Est-ce que tu penses que l'écriture, quelle qu'elle soit, littéraire, narrative, fictive, récit de soi, intime, est-ce que tu penses que l'écriture permet justement... de trouver sa place?
Oui, en ayant justement ce coaching avec toi et en étant moi-même dans un processus d'écriture, je sens que c'est un moment, au final, même si la finalité c'est de le montrer au public et qu'il y ait des gens pour recevoir, la première étape c'est soi à soi, c'est je suis avec mon ordinateur et j'écris tout ce que je veux et il y a une forme d'authenticité qui se met en place. Et où j'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont ou de montrer le personnage tel qu'il est dans, tu parlais des ombres et dans les trucs un peu plus humains et pas chercher à tout prix à être lumineux, parce que je pense qu'on est à côté de la plaque dès lors qu'on va vers là. Et donc oui, je pense que oui.
Ah, c'est chouette ça, tant mieux, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est des questions que je me pose moi-même en tant que praticienne, de me dire, est-ce que c'est, je le vis personnellement, je peux le voir aussi, je suis certaine, mais est-ce que ça marche vraiment pour tout le monde? Mais en tout cas, celles qui viennent ou ceux qui viennent, je crois que c'est leur canal intuitif et que
ils
trouvent cette place. Je pensais à quelque chose, tu parlais de lâcher, c'est vrai qu'en sortant de certaines séances, peut-être même quasi toutes, tu donnes ça, souvent un petit conseil, je me rappelle même une fois apporter des fardes bien lourdes qui représentaient le fardeau et de le lâcher. À chaque fois que je peux avoir une séance avec toi, il y a quelque chose du psychomagique, du symbolique qui permet de lâcher. Et énergétiquement, je sens quelque chose qui lâche. Et je voulais établir un parallèle et voir. Je voulais un peu te demander ce que tu en penses. Quand j'ai fini mon premier livre, l'écriture brute, et me dire c'est terminé, j'ai senti un phénomène énergétique très fort. Et je sais que d'autres personnes qui ont fini leur livre, qui l'ont publié, qui l'ont envoyé dans le monde où les autres appartiennent, elles ont aussi senti ce lâcher littéral dans le corps. Est-ce que tu vois des similitudes? C'est possible, ça?
Ah oui, je suis profondément convaincue. Et d'ailleurs, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps et puis du coup crée des tensions, voire qui peuvent mener à des symptômes et des maladies et compagnie. Donc, je pense que l'expression, quelle qu'elle soit, sera toujours la plus belle façon de se nettoyer et de revenir encore une fois à cette authenticité et à se nettoyer. Donc oui.
Nettoyer, j'aime bien ce mot-là. Il me parle beaucoup, nettoyer. La preuve, c'est que quand des personnes viennent en coaching, ça ressort très souvent, c'est j'ai besoin de lâcher les eaux boueuses, j'ai besoin de cracher. Enfin, c'est des termes, tu vois, moi je suis dans le champ lexical, je suis dans les mots, mais c'est des mots qui pour moi sont très parlants.
Oui.
Et je trouve qu'il y a vraiment cette idée de nettoyer, de lâcher, vider des eaux sales, du magma. Il y a déjà des personnes qui ont dit ce gros magma à l'intérieur de moi, ça sort tel quel, quoi. Et je me dis, quand je viens de voir, il y a quelque chose du domaine aussi de je dois sortir tout ça. Il y a des mots parfois un peu excessifs qui sortent. Et on le sent, on se sent littéralement allégé. C'est aussi un mot que je prends avec des pincettes, mais purifié aussi. Quelque chose qui te redonne un petit peu ta plus-soyance, comme ça.
Et puis c'est la beauté de l'humain, je trouve. Et tu parlais du féminin tout à l'heure, et je travaille aussi beaucoup sur les polarités féminin-masculin. Mm-hmm. Et le féminin, en fait, c'est vraiment être dans tout ce qui est là, et c'est pouvoir accueillir, et parfois de pouvoir sortir des trucs vraiment dégueulasses, et se plaindre, et être dans des mots qui sont très durs, mais en étant juste avec soi. Et je pense qu'en fait, c'est là la clé, c'est pas non plus d'être dans des trucs qui sont à côté juste pour dire des choses difficiles, mais en fait, c'est vraiment de rester avec l'émotion encore une fois. Et dès lors que tu es connecté à ça, que les mots puissent sortir tels qu'ils sont, de manière très très brute. Et je trouve ça beau. Et pour moi, c'est ça aussi le féminin, c'est de pouvoir accueillir et être en présence avec... toute la boue, le magma, tout ce qui est. Ça, c'est beau. C'est beau et c'est ce qu'on recherche aussi chez l'humanité. Je pense qu'il y a vraiment urgence, en fait, à être dans cette, de plus en plus cette authenticité. Oh, et arrêter de jouer à être quelqu'un bien.
Ah, oh, je te rejoins à
pitié.
Voilà, arrêtons d'être des gens bien. C'est comme on disait, les personnages tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit trop beau, trop bright, trop lumineux. Et je pense que l'humain, c'est ça. L'humain ne peut pas être trop bright, trop beau, trop lumineux. J'ai absolument... C'est impossible pour moi de dire que quelqu'un sur Terre comme ça qui existe. Quoi. Et en écriture, ce que j'essaye d'envoyer comme conseil, insuffler quelque chose aux plumes, c'est aller raconter tout. Quoi. Tout. Mm-hmm. Et même si il y a du sexe, la sexualité, dites la sexualité telle qu'elle. Quoi.
C'est ça.
Et s'il y a un truc, ouais, je ne sais pas si on peut le dire, je ne sais pas, mais si ça a été vécu tel quel, ça a été vécu tel quel.
Exactement. Et dès lors qu'il y a, je ne sais pas si on peut le dire, je pense que c'est exactement, vas-y, dis-le.
Ben oui, voilà.
La phrase qui,
c'est ça, quoi.
Qui donne l'autorisation. Ouais.
Et justement, ces autorisations aussi, c'est fou. Quoi. Moi, je suis sortie d'une séance en me disant, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je reçois une validation, je reçois une autorisation de quelque chose qui me dépasse, qui est autour de moi, mais qui me dépasse.
Ouais.
Et en fait, qui prend une importance vraiment à mes yeux. Et bon, je viens toujours avec cette image de l'ouverture du cœur et de l'esprit, mais il y a aussi des choses que je ne maîtrise pas. Et je sors d'ici et je me dis, oh, là, il y a quelque chose qui s'est passé.
Oui, c'est vraiment cette question d'humilité, quoi. D'humilité, on est tellement petit face à tout ce qui se passe, à toutes les énergies qui nous traversent et... Et puis tout le système familial, je reviens juste à ça pour dire, ben, en fait, on oublie de demander. Il y a une loi aussi qui, est, qui est d'actualité en énergétique, c'est demande et tu recevras.
Ouais.
Et si on ne demande pas l'aide de notre système familial et si on reste dans le petit personnage qui a vécu des trucs difficiles et qui, ben, ça va juste continuer comme ça. Si on commence à demander de l'aide, on se rend compte qu'on ouvre vraiment un champ énergétique très vaste et là, ça nous rend humbles.
Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a des forces, et comme tu disais, parfois tu peux remonter sur cette génération ou peut-être plus, je sais pas, mais en tout cas, toi tu fais parfois le regard sur ce qui t'entoure dans l'instant T avec les gens qui sont présents et peut-être quelques-uns absents, mais tu oublies qu'il y a toute cette lignée et tout ce truc derrière qui peut aussi bien avoir transmis des choses, mais aussi te donner cette énergie. Est-ce que je me poserais une petite question de petite profane qui ne connaît pas grand chose, mais est-ce que ton travail en constellation familiale est lié à ce qu'on appelle le transgénérationnel ou l'épigénétique, ou ça n'a absolument rien à voir?
Oui, bien sûr. Évidemment, je travaille le transgénérationnel parce que c'est tout ce qui est transmis de génération. Et c'est vrai qu'on a prouvé qu'on pouvait activer un gène par une mémoire. Donc, par exemple, l'arrière-grand-mère a été violée, puis ça saute, et après on retrouve des viols dans deux ou trois générations qui suivent parce qu'il y a le gène qui est présent et qui est activé par la mémoire. Et en général, ce qu'on va travailler en constel, et quand il y a un gène qui est activé, ça veut dire qu'il faut aller simplement reconnaître, parce qu'une des bases des constels, c'est de la reconnaissance de ce qui est vécu. Et donc j'en reviens à reconnaître que oui, t'as un adulte, t'es ok, t'as transformé le truc et c'est bien, mais non, il y a une partie de toi qui est en souffrance, qui a mal. Et la reconnaissance, c'est vraiment hyper important. Et donc ça permet, en fait, une fois que ça c'est reconnu, c'est vu, c'est libéré, et la mémoire n'a plus besoin d'être exprimée. Une mémoire qui est exprimée est une mémoire qui a juste besoin d'être reconnue, en fait.
C'est ça.
Oui.
Et c'est toujours très intéressant parce que l'écriture, j'ai l'impression qu'elle amène ça, en tout cas dans le canal qui est le mien, et celui probablement que les plumes ont en écoutant le podcast, c'est qu'il y a aussi une manière parfois, parce que je le vis, je vois que d'autres le vivent, c'est d'avoir déposé des choses Et qu'en fait, par les mots, et uniquement par ce canal-là, sur le papier, tu as réussi à reconnaître ce truc. Mm-hmm. Et ça peut être très inconscient aussi, de sortir du texte, oh punaise, je viens de le déposer là, tel quel. Mm-hmm. Alors évidemment, parfois ça sort naturellement, je pense qu'on peut tous être intuitivement capables de le faire, je sais pas ce que tu en penses. Mais parfois, oui, je trouve que des ressources comme des personnes comme toi, c'est précieux aussi, parce que parfois c'est impossible de pouvoir s'en sortir ou de le découvrir par soi-même.
Oui, c'est ça, et en même temps, oui, c'est vraiment de se faire accompagner. Je pense que ça, c'est vraiment super important. Si on veut évoluer, ça va 10 000 fois plus vite, d'aller chez des gens qui ont étudié les séquences. Et puis, ce qui est chouette avec les constels, c'est que je sors du petit personnage de la thérapeute qui fait quelque chose. C'est que moi, je suis aussi pris dans le jeu de la constellation et que je respecte simplement les règles. Mmh. Et au final, je ne sais pas vers où je vais. Je me laisse aussi porter par la constelle, tout en ayant quand même clarifié et défini un objectif. Mais c'est ça qui est assez magique aussi, c'est que moi, plein de fois, je suis bluffée. Je ne sais même pas comment j'ai fait, mais... et que je sens que c'est, encore une fois, cette notion d'humilité, ça me dépasse. C'est ouais. plus grand que moi. Je me laisse faire par la vie, je me laisse faire par la constelle, et puis boum, ça... Mm-hmm. Ouais. Et je pense qu'en écriture, c'est ça aussi, c'est se laisser faire par ce qui est en train de nous traverser. Et je pense que c'est là que ça devient magique, en fait.
Dès lors qu'on, lâche le contrôle. Pas trop de magie, mais quand même de la magie aussi.
Oui, bien sûr, c'est complètement magique, bien sûr, évidemment. Mais voilà, c'est pas assez... Oui.
Mais comme tu le dis, j'aime bien ce que tu amènes. Il y a cette notion de... Oui, il y a peut-être des outils, un canevas, un objectif dessiné, mais il y a aussi cette souplesse que tu as. Je la sens, hein, je pense que tu la ressens aussi. Moi, en coaching, c'est pareil, d'aller avec la matière vivante, évolutive de l'humain en face de toi. Quoi. Tu ne peux pas faire autrement. J'ai l'impression
que c'est ça. Notion de l'eau, comme ça, de la fluidité, de se laisser porter, ben, encore une fois. Il y a ça aussi à travers la danse, de vraiment être dans ce mouvement. Et en fait, je reviens sur magique, c'est hyper magique, bien sûr. Ça nous connecte à... Voilà, toutes nos mémoires de sorcières, de magiciennes, ça nous connecte à vraiment un autre monde que la 3D. Mais je voulais dire pas magique dans le sens où il faut se bouger, quoi. Ouais, à un moment, il faut y aller.
Ouais.
Et ça va pas te tomber dessus. Et il faut faire des efforts. Et je pense que rien n'est gratuit dans la vie.
Tout à fait.
Et il faut aussi avoir le courage de...
C'est très courageux de venir, je pense. Tu nommes un mot que je trouve très précieux. C'est courageux de venir voir des praticiens, des praticiennes comme toi. C'est très courageux déjà d'oser se connecter à l'écriture pour oser exprimer, mais en plus à cette conscience de se faire aider, de dire mais il y a des choses qui me dépassent, j'ai pas les clés en main. Je trouve qu'effectivement c'est très très courageux. J'ai une question qui me vient, c'est parce qu'on parle évidemment de contexte et d'exemples où c'est le bordel dans la famille, où il y a vraiment des triggers, des traumas, etc. Mais quelqu'un qui dirait moi je suis en coaching avec une personne et j'ai envie de lui conseiller, oh, bah, peut-être que ce serait intéressant de faire une constellation, machin. Il dirait, ah, bah, non, moi, ma famille, ça va. Ouais, non, bah, ma mère, mon père, ça va. Je le dis parce qu'il y a une fois, je suis venue, je me suis dit, non, ça va. J'ai vraiment été très surprise. Voilà pourquoi je pose la question, mais je pense que ça pourrait parler à d'autres. Est-ce que ça vaut la peine de venir quand même, quand on est dans cet état d'esprit-là?
Bah après, j'ai pas envie de forcer. Si la personne n'est pas du tout réceptive et qu'elle a pas envie, j'ai envie de dire non. Des fois, c'est juste pas le moment. Mais si elle a quand même envie, mais qu'elle est complètement dans le leurre de se dire oui, oui, tout va bien, c'est intéressant. Je l'ai déjà eu plusieurs fois. Et là, on va juste clarifier la demande et il y a toujours des trucs qui sortent. Ou alors on va faire peut-être une constelle à l'aveugle, se dire bah ok, on va simplement aller voir comment se sentent les différentes parties de toi. Et comme moi je suis très très, de moins en moins, mais quand même une tendance à me dissocier très très fort, à dire oui non tout va bien, tout ça s'est réglé. Et c'est ça qui est magique dans les constelles, c'est que bah, le mental n'a plus de place en fait. Et que tu vois que en fait non, c'est encore, c'est encore le bordel.
Et comme tu dis, on ne peut pas forcer quelqu'un. Si effectivement c'est quelqu'un qui ne le sent pas, je pense que ça ne sera pas du tout...
En fait, c'est faire la différence entre une personne qui n'est pas du tout en demande, qui n'a pas envie. Là, forcément, on ne va pas forcer les gens. Et une personne qui a envie, mais qui est dissociée. C'est donc ça. Là, c'est vraiment...
Comment tu peux expliquer dissocier à la personne qui ne connaîtrait pas ce terme?
Dissocier, donc c'est vraiment dire que tout va bien... sentir qu'on a des petites tensions mais pas aller y connecter, ou sentir que parfois il y a des sujets qui pourraient nous faire pleurer mais qu'au final on va vite changer de sujet de conversation, ou on va vraiment un peu fuir les émotions. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas de se culpabiliser par rapport à ça, parce que pour moi une dissociation, c'est vraiment quand on était enfant qu'il y a eu quelque chose où on ne s'est pas senti protégé. Et du coup, on se dissocie parce que me connecter à l'émotion, je sais que c'est une question de survie. Parce qu'on ne m'a pas protégée. Donc, si je suis dans l'émotion, quand on ne me protège pas, je pourrais mourir. Donc, il y a vraiment cette question de là. Et donc, j'ai appris à me dissocier et à plus du tout être en lien avec mes émotions.
C'est un mécanisme de protection.
Oui, voilà, c'est vraiment un mécanisme. Donc, c'est important de ne pas se sentir coupable quand on est là-dedans. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'en sentent coupables, en fait, et qui se disent « mais je suis incapable d'aller voir mes émotions, nanana, je me sens comme un mur froid ». En fait, non, c'est que tu ne sais pas... Enfin, donc là, on va vraiment amener de la protection. C'est la première chose qu'on va faire, travailler sur les forces, que la personne se sente en sécurité dans son système. Et quand elle se sentira en sécurité, là, ça pourra lâcher, quoi.
C'est très, très intéressant que tu amènes ça, parce que dans des projets, même quand une personne vient, elle est déjà courageuse, elle dit « j'ai un truc à dire, je vais y aller, je vais raconter, je le fais, j'avance, un mois, deux mois, je fais 50 pages. » Moi, je lis les manuscrits, puis je me rends compte, là, il manque quelque chose. Je suis comme toi, il y a des intuitions, il y a des moments de magie où je me dis, ben, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Je le sens. Il y a quelque chose, soit l'oignon, il y a encore une couche en dessous. Et je me permets de le manifester à la personne. Et c'est là que parfois, dans les accompagnements, on a commencé avec ça dans le début du podcast, il y a des blocages. Certains, je peux les faire lever moi-même, parce que j'ai les outils de mon métier, de ma discipline. Et d'autres, je me dis, mais il y a des mécanismes de protection. Il y a des stratégies d'évitement. Et évidemment, je peux l'amener d'une manière plus ou moins subtile, mais ferme quand même. Bon, si tu veux avancer dans ce projet, si tu veux qu'il soit authentique, je pose toujours la question de c'est quoi la finalité du projet, c'est quoi le message que tu veux envoyer. Mais si on ne le fait pas, on va s'éloigner. Si tu ne soulèves pas ce blocage, si tu ne vas pas creuser là-dedans, on va complètement s'éloigner. Tu vois, tu vas être à côté de la plaque. Tu vas être à côté de la plaque dans ton sujet, dans ton livre. Alors, ça ne vaut plus la peine de le faire. Parfois, je suis aussi un peu cash comme ça. Et je me dis, bah tiens, c'est vrai qu'il y a des moments où moi j'ai cette conscience, tu parles d'humilité, de me dire, avec mes outils, c'est plus possible. Je ne sais pas, je ne suis pas formée, je ne suis pas capable, je ne suis pas dans cette discipline. Et là, je trouve que tu parles de dissociation, de mécanisme de protection, d'aller voir le brut, l'émotion. Je suis ravie que des gens comme toi existent, qu'on puisse dire, écoute, va faire un petit tour de ce côté-là, ça t'intéresse, et vas-y.
Oui, oui, c'est vrai. C'est ramener de la sécurité, quoi. Et en fait, c'est aussi par mon parcours personnel que je peux parler de ça, parce que j'ai été très, très, très insécurisée. Et c'est vrai que, ben, du coup, je me suis passionnée, parce que c'était aussi une question de survie pour moi, et je me suis passionnée par les neurosciences, par toutes les séquences, en fait, qui permettent à un être humain d'être heureux. Et pour moi, le bonheur, ben, ça passe vraiment par cette sécurité intérieure. Et à me dire, en fait, là, je sens que... on peut parler de résilience aussi, et se dire que je sens que il peut m'arriver n'importe quoi, après il y a des drames, etc., mais je sens que je reviendrai toujours à cette sécurité intérieure qu'elle établit, qu'aujourd'hui j'ai plus peur de me lancer, de m'abandonner, que ce soit dans des relations, des choses nouvelles. J'ai de moins en moins peur, parce que je me sens de plus en plus en sécurité. Et ça, c'est vraiment des séquences, en fait, à mettre en place dans notre vie, dans notre à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est en ça que je reviens de... C'est pas magique, parce que ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent dépensé. Et voilà, c'est pas...
C'est un vrai investissement en soi-même, je trouve. Et tu parlais d'amour tout à l'heure, parce qu'on parle de sécurité, mais c'est super important. Et en fait, c'est aussi un acte d'amour vis-à-vis de soi. Je trouve, quoi.
Ah, bien sûr.
Parce que c'est investir, tu parles même d'argent, de temps, d'énergie, de tout. Tu investis en toi. Et c'est pareil pour un projet, quoi. Et si en plus, grâce à toi, grâce à des personnes comme toi, par le concours éventuellement de certains de mes accompagnements, une personne se sent en sécurité dans son projet, c'est merveilleux. Elle peut l'écrire, elle peut l'envoyer au monde, elle peut oser le publier, elle peut accepter les retours, qu'ils soient positifs, négatifs, parce que j'aime bien refaire le lien avec toutes ces personnes qui sont dans cette démarche d'écriture et qui disent, est-ce que je vais oser ? Certaines osent écrire le livre, mais après il y a des blocages. Je vois des personnes qui finissent un manuscrit et parfois j'identifie même avant elles un blocage de ouf, ok, il est fini, c'est magnifique, mais j'ose même pas, je sens qu'il y a un truc qui m'empêche de le mettre au monde, quoi. C'est fou, hein. Et tu parles de sécurité, j'ai l'impression que tu mets le doigt sur la pierre angulaire, quoi. Vraiment.
Et là, c'est aussi de se dire, moi, ce qui m'aide beaucoup quand, surtout au début de mon activité, je ne me sentais pas à la hauteur, comme 95% des thérapeutes. Voilà. Et en fait, là, c'est vraiment, je remets mon focus sur je veux me mettre au service, point. Je me mets au service et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de cette affirmation. Et on est des êtres humains pour ça, je pense, pour à la fois aider les autres et pour à la fois trouver des autres qui nous aident. Et je pense qu'on a tous trouvé des livres qui ont transformé, enfin, peut-être pas transformé notre vie, mais en tout cas qui nous ont accompagnés à un moment où c'était difficile. Et donc, c'est vraiment revenir à ça. Mon partage d'expérience, c'est au service de la vie.
Ouais. Mmh. J'aime beaucoup cette idée de transmission et de partage au service de la vie, c'est merveilleux. Mmh. Que ce soit moi en tant qu'accompagnante dans le coaching, que ce soit bibliothérapeute, que ce soit des personnes qui veulent écrire pour transmettre aussi, et toi ce que tu fais, je trouve que ça remet tellement de légèreté, tellement d'oxygène dans nos démarches, quoi, tu vois, de se dire c'est juste se connecter aux autres humblement. J'ai déjà été traversée par ça, toi aussi. Je suis moi-même en train d'écrire et j'ai mes propres blocages et je suis coach et c'est ok, donc je peux t'entendre, je peux te comprendre et ça ne m'empêche pas de te donner des outils. J'entends ça aussi dans ta pratique, dans ton vécu aussi, je me dis on est au service d'eux, avec cette humilité, c'est beau. Merci d'envoyer ça.
C'est vrai que moi-même en étant accompagnée par toi, c'est vrai que je ressens ce côté à la fois thérapeutique et à la fois transmission, quoi, désir de transmettre. C'est chouette d'être dans ces deux polarités.
C'est intéressant. Est-ce que toi, c'est vraiment une petite question, tu réponds pas, mais est-ce que toi tu as déjà eu besoin, j'imagine aussi, d'avoir accès à des constellations familiales, peut-être pas avec toi, avec d'autres, comment ça se passe si toi tu
pour
sens...
Moi, tu veux dire toi? Oui, moi j'en ai fait des constelles, je pense que au moins 50 sur moi, même peut-être plus. Donc oui, bien sûr.
Sur combien de temps, si je peux me permettre?
Je pense que ça fait 5-6 ans. Mais ça fait 2 ans que je l'utilise dans ma pratique. Peut-être un an. En fait, un an et demi. Parce qu'avant, je faisais plus de l'auto-hypnose. Mais je fais toujours de l'auto-hypnose. Donc, c'est un système d'alignement neuro-émotionnel que j'intègre toujours dans ma pratique de constel. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est très, très large. Et on peut faire autant de choses qu'on a de la créativité ou qu'on a envie de faire. Mais oui. Les constels, moi, ça m'a très, 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 très fort aidé. C'est incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de me former et de partager ça.
Et quel parcours alors? Comment toi, tu arrives à devenir praticienne en constellation familiale?
C'est voir. Donc, j'ai deux mentors principales, parce que c'est deux femmes que j'ai beaucoup observé faire. Donc là, j'ai et puis je connais, en fait, c'est vraiment toujours de revenir aux règles de la systémique, la règle de la place, de l'ordre, de l'équilibre et de la reconnaissance. Donc en fait, tu gardes ces quatre règles là en tête et tu te laisses guider en ramenant toujours à ça.
Ok. Et il y a une dernière petite question que je me posais, c'est que il y a certaines pratiques où je vois qu'on utilise des pierres, d'autres personnes, où ça se passe entre personnes. Comment tu peux expliquer ça à des personnes qui n'auraient jamais entendu parler de constellation familiale?
Oui, j'ai envie de dire, regardez la série Le Chemin des Oliviers sur Netflix, qui est une série turque qui vient de sortir, qui est absolument incroyable et qui relate vraiment ce qui se passe. Et justement, je suis en train d'organiser des ateliers de groupe où soit en fait on est en individuel, et donc c'est les pierres qui représentent une énergie. Et, ou alors soit c'est en groupe, et alors là c'est vraiment chouette parce qu'on a comme une pièce de théâtre de notre système familial ou de notre monde à l'intérieur. Et en fait, quand on est représentant, encore une fois, on est au service de celui qui fait sa constellation. Donc il n'y a plus le mental qui se dit je n'y arriverai pas, on est juste dans le corps. Qu'est-ce que tu ressens ici et maintenant? Donc moi par exemple, je me rappelle une fois, j'avais incarné la maman d'une fille. Et donc, c'était une mère qui était très, très... qui prenait toute la place. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui prend toute la place de manière générale. Et donc, je m'étais mise dans la constelle au centre. Et je ne voulais que personne d'autre ne rentre dans le champ énergétique. J'avais vraiment une espèce de surpuissance. Et c'était impossible. Et je me rappelle vraiment de cette constelle, c'était super fort. Et ça ne me ressemble pas du tout. Je veux dire, ça devait résonner avec des mémoires quand même. Mais si je l'ai incarné, ce n'est pas pour rien non plus. Mais voilà, c'est vraiment... c'est plus fort que nous. On est choisi pour représenter quelqu'un ou même parfois un concept. Et on télécharge ça. Et c'est plus fort que nous, en fait. On ne peut pas faire autrement que d'incarner.
Donc, pour faire un peu simple, sans vouloir être caricatural, que ce soit les pierres ou les personnes mises en scène sur une sorte de plateau de théâtre, on va dire, Une personne ou une pierre représente un membre de la famille ou une énergie familiale, c'est ça ?
Oui, c'est ça, un membre de la famille ou alors une entité interne. Par exemple, le juge intérieur ou le moi authentique ou l'enfant intérieur ou la maman intérieure. Et donc, on se dit, bah tiens, comment se sentent ces différentes entités dans ton système ? Et donc, on les place et donc, on voit tout ce qui se passe. Après, ça peut être maman, papa, le frère, la grand-mère. Ça peut aussi être mon ex ou ça peut être moi en lien avec le couple, moi en lien avec l'argent. On peut travailler avec des concepts aussi.
Ah ouais,
tiens, comment je me sens face à l'argent ? Et parfois, on va voir qu'en fait, l'argent, il a envie de me fuir. Ou alors, il sent... Ça peut être aussi genre... La personne qui va incarner l'argent se sent dans une toute puissance et contrôle la personne. Enfin, voilà.
Ouais. Ah, c'est passionnant. Ça peut être des entités, voilà, des images comme ça. C'est très, très intéressant. Et toi, quand, c'est résonateur qu'on dit, c'est ça ? Quand tu es une personne qui joue un rôle...
Représentant.
Représentant, ouais. Voilà.
Mais le représentant n'est jamais choisi pour rien. Hein. Ça résonne toujours avec nos mémoires.
D'accord.
Et c'est ça qui est intéressant aussi.
Est-ce que tu sens... Parce que... Toi, essentiellement, quand je viens de voir, ce sont avec des pierres, hein, ce sont des pierres que tu utilises. Tu es représentante parfois. Est-ce que tu sens qu'elles ont envie de dire quelque chose ? Tu sens que tu dois parler à leur place ou comment ça se passe ?
Oui, parfois. Ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, une jeune fille venait et elle a vraiment une maman qui a eu elle-même beaucoup de difficultés. Donc, je me rappelle avoir été tester l'énergie de la maman. Et avoir senti une tristesse, j'ai laissé vraiment cette tristesse me parcourir parce que je sentais qu'elle était désolée et profondément désolée de ce qu'elle avait fait vivre à sa fille. Et donc là, j'ai incarné et j'ai dit vraiment je suis désolée parce que c'est des mots qui font du bien. Ça revient à la notion de reconnaissance.
C'est ça.
Oui.
C'est très intéressant et je me rends compte que ça nous dépasse,
Ça nous dépasse, oui. C'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer ce qu'est une constellation. J'ai toujours beaucoup de mal à
mettre des mots. Je pense qu'il faut la vivre, hein. Que ce soit toi qui soit la praticienne, que ce soit la personne qui vienne. Il y a des expériences comme ça, je pense qu'il faut la vivre parce qu'elle passe par le corps, par les vibrations, les émotions. Donc, j'essaie de capturer un petit peu de cette essence ici avec toi à travers le micro, évidemment. Il y a aussi quelque chose, une fois, qui m'a traversé l'esprit, je me suis demandé... pour créer des structures, des schémas, des fiches personnages, on a vraiment des outils types pour un roman, par exemple, où on doit inventer des choses. Même un roman complètement fictif, moi je dis toujours, il faut de la vraisemblance à fond, il faut de la crédibilité, donc dans les relations, dans les personnages. Est-ce que tu penses qu'une constellation familiale ou le modèle des constellations familiales peut aider des personnes qui veulent créer des univers ou des relations ou des héritages d'un personnage ? Je ne sais pas comment ça peut être utile éventuellement.
Je ne sais pas très bien, parce qu'en constel, on va travailler avec ce qui est là.
Voilà.
Je ne sais pas.
Ouais, je pose la question. J'attends pas de réponse spécialement, mais je me dis, voilà, l'énéagramme, parfois, ben, c'est pas du tout une pratique, c'est plutôt quelque chose. Je dis l'énéagramme, il y a des personnes qui l'utilisent pour créer des
personnages types.
Des personnalités, tu vois, ou des attitudes dans telle situation.
Après, ça peut être intéressant pour aller tester les énergies, par exemple, si on met. Maman, mamie, la grand-maman, l'arrière-grand-mère. C'est intéressant d'aller tester les différentes énergies parce qu'on va voir que tiens, l'une a été en réaction avec l'autre, ou par exemple on va tester une arrière-grand-mère qui était extrêmement rigide et puis une grand-mère qui est complètement dans le rien à foutre et complètement dans une liberté mais qui n'est pas équilibrée. Et puis on va revenir dans quelque chose d'un peu plus équilibré et donc on va vraiment sentir que la suite des personnes qui sont au-dessus de nous va faire que ça va créer une personnalité et en fait on croit que notre personnalité elle est unique et c'est nous qui la créons, mais moi je pense qu'elle est créée de bien en avant et qu'on la crée pas forcément, qu'on la subit plutôt.
D'accord, oui, je comprends bien. Mais ceci dit, ça pourrait être, parce que je pense que même quand on écrit un roman, on écrit comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, je pense que tu le ressens aussi avec soi, avec qui on est, même si on est dans une histoire complètement fofolle dans l'espace, je sais pas quoi, on amène de ces relations. Donc ça peut peut-être donner des idées, des inspirations, je sais pas. Parce que les relations dans un récit, c'est important.
Ouais,
un récit de qualité, d'écrire des relations, des réactions, des comportements adaptés, suradaptés. En réaction, tu dis, ça peut créer une vraie vraisemblance dans le truc, quoi. Enfin, je sais pas.
Je pense que ça peut surtout créer une hauteur, de prendre de la distance et Je ne sais pas très bien répondre à ta question.
Non, mais on explore ensemble, parce que j'aime bien voir, tiens, qu'est-ce qu'on peut... En tant qu'auteur, autrice, je trouve que c'est important d'oser aller explorer des choses.
Ouais, c'est ça.
Et juste de les vivre, se dire qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça me donne envie de faire par la suite, quoi, de création. Ouais. Même à partir de soi et cette propre matière qui est la nôtre, quoi. En tout cas, c'est riche, c'est très riche.
Oui, c'est ça, mais je reviens, bah oui, par rapport aux personnages et au final, dans notre vie, on se rend compte qu'on a toujours les mêmes personnages qui reviennent à nous, mais sous des formes différentes. Et donc, ça, c'est aussi intéressant d'aller voir simplement que quand, encore une fois, l'imbrication relationnelle n'est pas vue et libérée, bah, on va toujours s'attirer, par exemple, des bourreaux. On va toujours s'attirer des gens où c'est nous le bourreau, où on va toujours se faire harceler comme ça, et ça prend des formes différentes. Et tant qu'on n'a pas été résolu, bah, la source, ça reviendra toujours. Et donc ça, c'est un schéma très classique qu'on a tous en tant qu'être humain, je pense.
Bien sûr.
Recréer des relations. Et on croit qu'avec le conscient et avec la volonté, on va changer. Mais vraiment... c'est compliqué, je vois, j'ai envie de dire impossible, mais je vais pas dire impossible, donc je veux dire c'est compliqué.
Compliqué, oui. Comme tu dis, ça va plus vite parfois parce qu'on a
de croire qu'on va changer, en fait non. On se dit mais non. Enfin,
ça peut être une base de plein de parcours initiatiques qu'on peut mettre dans les mains d'un personnage, par exemple.
Oui.
De voir comment on répète des choses, comment on peut les dépasser, comment on peut évoluer. Moi je vois une belle matière en tout cas de récit initiatique, par exemple, quoi, de transformation, d'évolution, pourquoi pas.
Ouais, c'est ça, de mise en lumière, de clarté.
Si, on va arriver tout doucement à la fin du podcast, j'ai envie de te poser cette question-là. Si toi, tu devais essayer de te pencher sur tout ce que tu as pu offrir à des personnes, tout ce qu'elles ont pu recevoir dans cette pratique, toi aussi, qu'est-ce qui est vraiment la vertu ultime des constellations familiales ? Par exemple, je te demande d'être un peu synthétique du coup, mais... s'il y a un truc qui pop à ton esprit comme ça, c'est quoi la vertu ultime ?
Voir. Je pense que juste se dire, tiens, je suis encore dans ces schémas-là, bah oui, mais je l'ai... Enfin, encore une fois, un peu bateau, mais je l'ai vu tellement de fois quand j'étais petite. Donc aujourd'hui, je vais faire différemment de vous. Et j'aime beaucoup quelqu'un qui s'appelle Frank Lobvet, qui m'a dit un jour... accepte que tu es exactement comme ta mère pour pouvoir faire quelque chose de plus. Et donc vraiment voir qu'en fait tout ça c'est des trucs qui sont exactement comme nos parents ou comme les gens de qui on a été le plus proche pour pouvoir l'accepter.
C'est fou. Hein.
Et aller explorer un autre endroit. Mais je pense que tant qu'on ne l'a pas vu, on n'arrivera pas à explorer autre chose. On va toujours revenir de manière inconsciente dans ces schémas-là.
C'est une forme d'extrême lucidité,
plus fort que nous.
Quoi. Oui. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, pour moi, la clarté, c'est vraiment un des... Enfin...
La clarté, oui. Ouais. C'est fou. Ouais. Parce que la clarté, elle t'amène après à pouvoir créer autre chose.
Oui, c'est ça.
Et là, dans une vie, et puis par le biais de l'art, et par le biais d'autres choses. Donc, c'est fou, quoi. Ah, c'est très intéressant. Merci beaucoup, parce que là, je me dis, bah, ça peut aussi donner une petite idée de... qu'est-ce que ça peut éventuellement m'apporter à des personnes qui écrivent, qui écoutent ici. Ouais, et je trouve qu'il y a des similitudes un peu dans nos pratiques, mais n'importe quelle pratique thérapeutique, je pense qu'il y a quand même des similitudes avec des paramétrages différents.
Bien sûr,
se connais-toi toi-même, connais ton histoire, connais ta lignée, connais ce qui t'entoure, c'est un vrai taf, hein, tu l'as bien mentionné, c'est un vrai engagement.
J'ai envie de dire, et tu connaîtras les dieux. Parce qu'il y a une citation comme ça, je ne me rappelle plus de qui, mais...
Et tu connaîtras les dieux.
Waouh,
wow, alors en plus ça nous ouvre un paysage
onirique,
merveilleux. Quoi. Bah oui, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce que je souhaite aussi aux personnes à travers l'écriture, en tout cas, d'être dans cet état. En plus, hier, je t'envoie un petit message de confirmation, tu me dis joie de te voir, je dis joie de venir aussi. Et je repense à tous ces actes de création. Quel kiff ultime, quoi. Moi, j'ai pas besoin de drogue, j'ai pas besoin de cette clarté, tu vois. Alors, en petit padawan qui continue d'évoluer tout le temps aussi, de se prendre encore des grosses merdes dans la tronche parfois aussi, mais de pouvoir être courageux ou courageuse, de se retrousser les manches, de le faire, de vivre l'après, où tu vois des évolutions, cette clarté.
Cette clarté qui permet aussi un lâcher prise, en fait, cette acceptation, se dire, ben...
C'est ça.
Et cette humilité, je reviens à ça, quoi.
Très important, ouais.
Il n'y a pas besoin de se sentir coupable et il n'y a pas besoin, en fait, c'est juste on est tellement soumis par plein de choses, par plein d'énergie, plein de processus, c'est juste s'accompagner
Magnifique. Mais écoute, je crois qu'on va rester sur cette idée parce qu'elle est très porteuse. Je sens que ça élève rien que de l'entendre. J'ai envie de terminer avec une petite question que je pose souvent aux personnes que j'interviewe dans le podcast. Est-ce que toi, parce qu'en plus tu l'as mentionné, tu écris, tu manipules les mots aussi d'une certaine manière, même dans l'accompagnement, dans l'allogorée, dans le fait de parler, etc. Est-ce que pour toi, il y a un mot ou des mots, tu les entends, tu les vois, tu les écris? Est-ce qu'il y a un mot ou des mots qui délivrent?
Moi, oui, j'ai quelques mantras qui m'aident quand je sens que je repars un peu dans des schémas où je parlais de culpabilité ou de honte ou de m'auto-juger. Un des mantras que j'utilise souvent, c'est « je me pardonne, je m'accepte et je m'aime ». Après, tu peux mettre ce que tu veux derrière pour les comportements, pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait. Et ça, vraiment, de me le répéter, de sentir cette présence à moi. Et une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est « j'incarne la déesse que je suis déjà ». À chaque instant, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Et juste ça me recentre aussi très très fort.
C'est un peu la position Superman de chirurgien, j'accepte, cette déesse en moi, qui existe déjà. Ouais. Quoi.
Donc tous les mots sont importants ici, hein. C'est des mots assez hypnotiques qui vont travailler sur notre subconscient.
Tout à fait.
Ouais. Après tu peux mettre ce que tu veux derrière, j'incarne la femme courageuse que je suis déjà, j'incarne la douceur que je suis déjà, j'incarne la confiance que je suis déjà. Tu peux mettre ce que tu veux.
Et ça rappelle que ça existe déjà.
Oui,
magnifique.
C'est ça. Oui.
Christelle, merci beaucoup.
Merci aussi.
Je suis contente d'avoir pu explorer ça encore un peu plus avec toi. Et merci pour ta générosité parce que ça va aussi être un objet de transmission qui va partir dans les ondes pour d'autres personnes. Donc merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne ou bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire et laisse les mots te délivrer.